m'a embrassé, on m'a caressé le sexe, on m'a caressé la peau, il m'a pris dans ses bras. Il m'a, comme à tous les autres enfants, fait croire qu'il était le bon père, le représentant de l'église, de la morale, en même temps le chef. Puis à des âges aussi jeunes, on ne sait pas du tout ce qui se passe. On pense, moi c'est ce que j'ai pensé sur le moment, qu'on était vraiment le chouchou et que c'était quelque chose de normal quelque part.
L'Église en finira-t-elle un jour avec la pédophilie ? Nouvelle salve de révélation. Aux États-Unis, on apprend que 300 prêtres au moins ont abusé d'un millier d'enfants en Pennsylvanie pendant des dizaines d'années. Au Chili, 38 enquêtes ouvertes contre 73 personnes. Les évêques chiliens ont tous remis leur démission au pape. En Australie, le numéro 3 du Vatican attend d'être jugé. En France, l'affaire Prena, vous venez d'entendre le témoignage d'un ancien scout abusé par ce prêtre près de Lyon. Témoignage recueilli par nos confrères du Parisien. Lundi, en début de semaine, le pape François a écrit aux catholiques du monde entier pour dénoncer des atrocités et pour éradiquer cette culture de la mort. Mais les choses ont-elles vraiment évolué au sein du clergé ? Trouver les coupables, trouver ceux qui les auraient couverts, indemniser les victimes, le chantier est immense. L'Église de France a-t-elle pris le problème à bras-le-corps ? Nous en parlons, nous en débattons au 01 45 24 7000, sur franceinter.fr et sur Twitter, mot-clé Telson.
Frédéric Mettezot, le téléphone sonne.
Direction le Standard de France Inter, bonsoir Gaston.
Oui, Gaston du Loiret, ben, je vous remercie d'avoir retenu mon message et je vous félicite pour la qualité de certaines de vos émissions.
Et on vous remercie.
Il y a des affaires de pédophilie dans le clergé, ça se compte par centaines, vous venez de l'évoquer, que ce soit en Australie, en Irlande, en Pennsylvanie, au Chili, et en France, curieusement, on nous parle de quelques cas qui pourraient presque se compter sur les doigts d'une main. Alors je voulais savoir, est-ce que c'est parce qu'il y a une espèce de censure soit de la part du clergé, soit de la part des journalistes, ou est-ce que comme pour le nuage de Tchernobyl, la France est épargnée de ce fléau.
Merci Gaston pour votre question. Pour vous répondre ce soir, quatre invités. Isabelle de Gaumin, rédactrice en chef à La Croix, ancienne correspondante au Vatican, auteur au seuil de l'ouvrage intitulé « Histoire d'un silence ». Bonsoir.
Bonsoir.
En ligne de Rome, Mathilde Imberti. Bonsoir Mathilde.
Bonsoir à tous.
Correspondante permanente de France Inter en Italie et au Vatican. Nous sommes également avec le père Pierre Vignon. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes prêtre dans la Drôme. Vous êtes en direct de chez nos collègues de France Bleu Drôme Ardèche. Père Vignon, vous avez lancé une pétition appelant à la démission du cardinal Barbarin qui aurait couvert un prêtre pédophile. Et puis, avec nous, en studio, Jean-Louis Schlegel. Bonsoir.
Bonsoir.
Sociologue des religions, directeur de la revue Esprit. Alors, la question de Gaston, c'est y a-t-il moins de cas au sein de l'Église de France de pédophilie ou sont-ils moins connus et donc étouffés ? Je vais vous poser la question, Isabelle de Gaumin, journaliste à La Croix, de ce que vous en savez. Vous avez consacré un livre, on expliquera pourquoi, à l'affaire Prena. Selon vous, Isabelle de Gaumin, moins de cas dans l'Église de France ou moins connus ?
Alors, c'est une bonne question, la question de Gaston, parce qu'on se l'est souvent posée. D'abord, les cas en France ne se comptent pas sur les doigts d'une main. Hein. Vraiment, il y en a beaucoup, notamment le fait d'avoir découvert l'affaire Prena en 2015 a entraîné une suite de révélations un peu partout en France. Donc, c'est plus que les doigts d'une main. Hein. C'est même plus que les doigts de deux mains. Il y en a quand même pas mal. C'est vrai que ce qu'on remarque, c'est que les cas ont été connus plus vite, plus tôt dans des pays anglo-saxons, notamment les États-Unis et puis ensuite l'Irlande, ensuite la Belgique, l'Allemagne, peut-être par effet de contagion. Et la France, ça fait juste 5-6 ans que les victimes commencent à se manifester de manière beaucoup plus spontanée. Mais par exemple, vous avez en Italie ou en Espagne, où il n'y a absolument pas de raison qu'il n'y ait pas de cas de pédophilie, où c'est encore très, très caché, où le silence est encore très important. Donc je pense que c'est une évolution qui se fait lentement. Et de fait, en France, ça s'est fait moins rapidement peut-être qu'aux États-Unis.
Jean-Louis Schlegel, sociologue des religions, en France, moins de cas ou moins de cas identifiés et signalés ?
Oui, c'est très difficile de répondre à cette question parce que il faut quand même voir qu'aux États-Unis aussi, la grande enquête là pour la Pennsylvanie, là, elle a été faite par des laïcs et par peut-être des religieux, en tout cas une commission, je ne sais pas, ou une
association. Une commission judiciaire. Hein. Oui, c'est pas une enquête interne.
Voilà, indépendante quand même, hein, et donc qui a obtenu les documents. Si on lançait quelque chose de ce genre-là en France, peut-être qu'on découvrirait beaucoup de choses, je ne sais pas. Alors, il est vrai peut-être que la France est entre les États-Unis et peut-être l'Italie et l'Espagne, c'est-à-dire que on est un pays à moitié catholique, quoi. Hein, et donc, il y a quand même cette différence, peut-être malgré tout encore, pour le clergé, pour la caste sacerdotale.
Il y a des petits restes de filles aînées de l'Église dans la République laïque.
Peut-être quand il s'agit d'un prêtre, on ne dit pas n'importe quoi, on ne dénonce pas n'importe quoi. Je dis n'importe quoi, c'est gravissime hein, ce qui se passe, mais effectivement, il reste peut-être quelque chose de ce genre-là dans ce pays, malgré tout, laïque et de culture catholique, quoi. Hein, c'est...
Pierre Vignon, prêtre dans la Drôme, vous avez lancé une pétition qui appelle à la démission du cardinal Barbarin. Et je le redis, vous êtes en direct de Valence, en direct de France Bleu Drôme Ardèche. Selon vous, y a-t-il plus de cas, moins de cas dans l'Église catholique de France? Et surtout, est-ce que les cas sont signalés?
On n'a pas d'éléments pour pouvoir se prononcer. Mais ce que disait Gaston, il n'y a pas de raison que le nuage se soit arrêté à la frontière. Et donc je pense que le ménage et les découvertes ne sont encore pas finis. Et qu'il faut courageusement aller au-devant de tout ça. Il y a un certain nombre de diocèses qui ne sont pas encore prêts à ouvrir leurs archives. Je le sais par une universitaire qui enquête sur ce domaine. Madame Anne Philibert, tout à fait compétente, historienne, qui s'est vue fermer des archives diocésaines parce qu'elle est en train de préparer un livre qui va sortir dans les semaines ou les mois qui viennent, je ne sais pas exactement, la pédophilie dans l'Église catholique du Concile de Trente, c'est-à-dire à la moitié du XVIe siècle, jusqu'en 1978. Ça fait donc 400 ans et elle s'est vue refuser l'ouverture d'archives. Il y a donc encore des réticences.
Les réticences, on va voir comment ça a été géré au niveau du Vatican avec vous, Mathilde Imberti, en direct de Rome, correspondante de France Inter. Mathilde, on le disait, le pape François a écrit une lettre adressée au peuple de Dieu, ça veut dire à tous les croyants catholiques, ce lundi. Comment le pape François se positionne-t-il par rapport à ces questions? On se souvient que ça s'est très mal passé au mois de janvier au Chili, pays où il y a une gigantesque enquête qui a été lancée. Vous étiez de ce voyage, Mathilde, racontez-nous d'abord cet impair du pape, alors volontaire ou involontaire?
Alors les choses effectivement se sont accélérées avec ce voyage au Chili qui a marqué un tournant puisque c'était au mois de janvier hein, de cette année. Le pape a été en fait interrogé sur place. Il ne s'y attendait pas a priori. Il avait été mal préparé à ce voyage. On lui avait caché des informations. Il a été interrogé sur le cas de l'évêque Barros qui est un évêque qui avait fait des vagues en fait déjà au Chili parce que il a couvert les agissements d'un prédateur pédophile bien connu là-bas, qui est le père Caradima. Et donc cet évêque Barros, que tous les Chiliens connaissent, puisque déjà il s'était opposé à sa nomination dans un diocèse du sud du pays, etc., cet évêque Barros a été défendu par le pape François sur place au Chili. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a été interpellé à la sortie de sa papa mobile, si vous voulez, dans un premier temps par des journalistes chiliens. Et là, il a parlé de calomnie à propos des accusations
Le pape était mal informé, dites-vous, Mathilde. Ça veut dire
qu'il était a priori mal informé, c'est-à-dire c'est ce qui ressort effectivement des informations. Son entourage et l'entourage chilien, son entourage sud-américain lui a caché des choses. Alors est-ce qu'il aurait lui davantage pu creuser? On peut se poser la question, mais effectivement ce cas-là de l'évêque Barros n'avait pas été, si vous voulez, mis en avant avant son voyage au Chili. Et il s'est retrouvé effectivement face à une presse qui l'interrogeait, face à tout un peuple chilien absolument révolté par ce cas Barros. Et là, il a eu cette parole absolument malheureuse de parler de calomnie à propos de l'évêque Barros. Donc inutile de vous dire que à partir de ce moment-là, tout le voyage au Chili a été complètement assombri et a tourné uniquement autour de cette affaire. Et il a réitéré dans l'avion papal, hein, vous savez qu'on interroge toujours après ses voyages sur le vol vautour vers oui. Rome. Et là, il s'est maladroitement défendu en disant oui qu'il n'y avait pas vraiment de preuves contre l'évêque Barros, voilà, de manière assez confuse. Rentré à Rome, il a voulu s'informer, il a diligenté une enquête très sérieuse. Là, il a mandaté son plus fin limier, si vous voulez, dans les affaires de pédophilie.
Le rapport fait 2000 pages.
En réalité, est revenu un dossier extrêmement lourd. Voilà, est revenu à Rome un dossier extrêmement lourd sur le cas Barros. Et ça a accéléré. Il a convoqué les évêques, il a reçu les victimes du père Caradima qu'il avait absolument ignoré jusque-là. Hein. Ces victimes lui avaient écrit des lettres, etc., sans retour. Il a reçu les évêques, il a reçu les victimes, et cela a conduit à la démission des évêques, d'une partie des évêques du Chili, attention.
Voilà, ils ont tous remis leur démission, mais en fait, elles n'ont pas toutes été acceptées. Voilà.
Et oui, parce que là aussi, c'était un piège. C'est-à-dire que, comment vous faites? Vous pouvez pas faire démissionner l'ensemble des évêques du Chili. Ça veut dire que tout le monde, finalement, est solidaire et tout le monde démissionne, c'était pas possible. Donc le pape a fait démissionner, a accepté la démission, disons, de cinq évêques chiliens, dont le fameux évêque Barros.
Voilà. On reviendra sur la façon dont le Vatican a géré ses affaires. Mathilde Imberti, je précise que Le Monde, nos confrères du Monde, viennent de publier une très grande enquête passionnante qui a été réalisée au Chili sur ce prêtre Caradima accusé de pédophilie. Mais à 19h30, on va retourner au Standard de France Inter. Bonsoir Marie, nous vous écoutons. Vous êtes en direct de Lille.
Oui, bonsoir. Et alors, je réagis à la précédente intervention parce que si le pape François, dans sa lettre, commence sa lettre par « Quand un membre souffre, tous les membres souffrent ». Et je pense que toute l'Église catholique, le clergé bien entendu, et en particulier les prêtres coupables, ont été traduits en justice, tout au moins en France. Personnellement, je connais deux prêtres pédophiles qui ont été traduits en justice. Alors maintenant, je me pose la question, est-ce que l'on doit réduire l'Église catholique uniquement à ces questions de pédophilie? Parce que je pense que l'on parle beaucoup de cela. Or, l'Église catholique a quand même beaucoup d'autres aspects et à mon avis, on devrait les entendre davantage sur les ondes.
Merci de votre question qui est plus une remarque, Marie. Question à Isabelle de Gomain, rédactrice en chef à La Croix, auteure d'Histoire d'un silence. Isabelle de Gomain, évidemment, la majorité des prêtres ne sont pas pédophiles. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, et on va expliquer pourquoi ce livre. Parce que quand vous étiez jeune fille, petite fille, vous étiez scout et vous avez croisé le père Prénat. Il se trouve que plus tard, il a été accusé de très graves dérives pédophiles. Alors, qu'est-ce qu'on répond à Marie qui dit l'Église, ce n'est pas que ça? Vous-même, Isabelle de Gomain, vous avez été choquée par ce que vous avez vu et vous avez encore foi en cette Église.
Oui, je suis d'accord avec Marie. Évidemment que l'Église, c'est pas que ça. Mais c'est ça aussi. Et je trouve que de ce point de vue-là, la lettre du pape, elle marque quand même une rupture parce que justement, le pape dit, c'est pas simplement quelques cas, ces histoires de pédophilie, c'est tout un système. Et c'est de ce système-là dont il faut sortir. Un système qui a été favorisé par une culture du secret, par une culture effectivement du cléricalisme, c'est-à-dire que les prêtres ont tous les pouvoirs, donc on n'ose pas les remettre en question. Donc c'est vrai que l'Église c'est pas que ça, mais c'est ça aussi. Et en tout cas, elle pourra pas aller plus loin si elle n'arrive pas au bout de toute cette histoire. Et donc ça passe par une grosse opération vérité. C'est vrai que ça fait mal. Moi, effectivement, je suis toujours catholique, mais de découvrir ça, de comprendre ça, et surtout de comprendre que j'étais moi-même quelque part impliquée dans cette complicité du silence, puisque effectivement, c'est ça qui est terrible dans ces histoires, c'est que tout le monde le savait, tout le quartier le savait, personne ne l'a dit au moment où ça s'est passé. Donc il y a quand même, et c'est ce que dit aussi bien le pape, il y a une responsabilité collective de l'ensemble des catholiques, de faire attention à ce que font les prêtres, de dénoncer les prêtres, de ne pas avoir peur de dire la vérité.
Il y a des témoignages glaçants, Isabelle de Gomain, dans votre livre publié au Seuil, des parents qui n'ont pas cru leur enfant et qui ont défendu leur prêtre. On est proche d'un comportement sectaire, non, dans ce cas précis du cas du père Prénat?
Oui, ou d'un comportement, je dirais presque de famille, hein, parce que vous savez que là où la pédophilie est la plus importante, c'est au sein des familles, hein, c'est ce qu'on appelle l'inceste. Et en fait, avec ce rapport d'un prêtre qui a une autorité paternelle sur les enfants, mais aussi souvent sur les familles, sur les mères ou les pères qui reçoivent dans des cours de catéchisme, à qui l'enseigne, qui voit le dimanche, etc. Il est invité dans ces familles-là, donc il est invité le dimanche à midi à manger le rôti, et en fait, il viole les enfants de ces familles, ce qui est absolument terrifiant comme manière d'être. Mais c'est vrai qu'il y a le problème, c'est que on donne plus de crédit à la parole d'un prêtre qu'à la parole d'un enfant, et qu'on n'ose pas remettre en cause tout ce système. Alors, c'était à une certaine époque, hein. Aujourd'hui, je pense que ça se passerait plus comme ça. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans cette enquête-là que j'ai fait, c'est effectivement de voir que beaucoup des enfants qui étaient devenus des adultes, je leur ai dit « Mais pourquoi vous n'avez rien dit ?» Ils m'ont dit « Mais on a dit, mais personne ne nous a cru, quoi. » Parce que le prêtre avait de toute façon le dessus par rapport à nous.
On va retourner au standard dans quelques instants où nous attend Dominique. Mais d'abord, question au père Pierre Vignon, prêtre dans la Drôme. Est-ce que vous vous voyez comme, allez, on va dire, un chevalier blanc au sein de votre église? Vous lancez cette pétition pour appeler le cardinal Barbarin à démissionner. Il faut nettoyer les écuries d'Augias?
De toute façon, puis il faudra certainement plusieurs pontificats pour arriver à vider les fosses à Purin. Mais l'essentiel, c'est qu'on s'y mette et qu'on persévère. Et pour ma part, moi, chevalier blanc, je vous remercie. Mais
je vous pose la question.
Oui, ça serait.
J'ai pas dit croisé.
Oui, à l'âge que j'ai, ça serait totalement donc immature et irréaliste. Et il se trouve que je vis seul, retiré pour raison de santé. Je suis une espèce de bûcheron qui vit au fond des bois. Et je dis une parole que j'ai eue tout le lundi après-midi. J'ai médité la lettre du pape. J'ai dit, mais c'est effrayant. Le soir, j'ai fait ma lettre. Je l'ai soumise à François Devaux, président de la Parole Libérée, et à Emery Suarez-Pazos, président de l'association contre les dérives sectaires, donc de la VREF. Et tout de suite, ça a fait tilt. Et après, depuis, ça n'a pas cessé.
C'est-à-dire, est-ce que des prêtres vous disent, tu as raison, vous avez raison? Est-ce qu'il y en a qui signent derrière cette pétition?
Alors, je vais vous répondre là-dessus, mais je finis pour avant.
Je vous en prie.
Si ma parole trouve un tel écho, c'est que c'est pas à cause de moi qui suis bien incapable d'organiser quoi que ce soit. C'est du fait que ça veut dire que cette parole était attendue. Je regrette pas que ça soit tombé sur moi. Ça aurait pu tomber sur un autre. Alors pour mes confrères, je pense justement qu'ils sont très prudents. Tout d'un coup, moi-même, je m'attendais pas à ça. Je fais le strike. Je crois que c'est comme ça qu'on dit.
Au bowling, oui.
Oui.
On fait tomber toutes les quilles.
Voilà. Et donc, d'où il sort celui-là? Qu'est-ce que c'est ce bûcheron? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Donc, je n'étais pas prévu. Hein. Alors, seulement, c'est pas moi, c'est pas ma personne qui compte, c'est les arguments que j'avance. Mmh. Alors, ce que j'espère, ce que je souhaite, c'est que passer le temps de la réflexion, de la surprise et tout ce qu'on veut, nombre de mes confrères, et aussi nombre des fidèles, puisque le pape a appelé tous les fidèles, vont se dire, groupons-nous pour faire ceci, groupons-nous pour faire cela. Et donc, il s'agit plus de chevalier blanc, il s'agit de répondre à la demande courageuse du pape François, aidez-moi à vaincre le cléricalisme, parce que si on le fait qu'entre évêques, prêtres, diacres et cardinaux, on va pas y arriver. C'est-à-dire, c'est à peu près la même chose si on demande dans une entreprise, de grandes entreprises internationales qui polluent, oui, quand elles se mettent à dire qu'elles sont les plus écologiques de toutes, ça marche pas.
D'accord.
Les gens qui ont fait ces abus, ils sont grillés, ils peuvent pas faire. Et c'est le cas du cardinal Barbarin en tant qu'il occupe sa place, donc la fonction qu'il a, et non pas en tant que sa personne, bien sûr, que je me garde bien d'attaquer.
19h37, 01, 45, 24, 7000. Bonsoir Dominique.
Oui, bonsoir à tous. Ma question va s'appuyer sur tout ce qui vient d'être dit précédemment, c'est-à-dire que je ne crois absolument pas que des décisions, donc sur le fond, pour résoudre définitivement ce problème de pédophilie chez les prêtres, ne faudrait-il pas autoriser enfin aux prêtres de se marier, comme on l'a fait chez les protestants? Je suis d'origine catholique, j'ai été interne chez les curés, je n'ai pas été... Et j'ai découvert le protestantisme. Ils sont mariés. Il y a des femmes pasteurs, il y a des pasteurs, ils ont des enfants. Tout ce qu'on pourra faire avant, tout ce qui a été dit, etc., ça recommencera. Donc, Ne faudrait-il pas que l'Église autorise enfin, en gardant ses autres dogmes, autorise enfin le mariage des prêtres?
Merci Dominique pour votre question. Jean-Louis Schlegel, voilà, on va le dire correctement, sociologue des religions. Alors là, c'est un vaste débat qui dépasse le cadre théologique et sociologique.
Oui, c'est un gros débat. Mais disons, la réponse officielle de l'Église, jusqu'à présent, c'est non. Il n'y a pas de lien entre le célibat des prêtres et la pédophilie. Personnellement, je reconnais que j'ai émis des doutes et je rejoins d'autres gens qui émettent aujourd'hui des doutes en voyant quand même le côté massif qui semble concerner surtout le clergé catholique, un clergé célibataire, ou un clergé qui fait vœu même de chasteté. Donc c'est au-delà d'une espèce de statut de célibataire. Ils font un vœu d'être pur, d'être chaste, et donc ils commettent des crimes, un certain nombre, enfin certains parmi eux, en tout cas, commettent des crimes aussi abominables. On a l'impression que ça concerne surtout ce personnel religieux. Alors ça pose quand même des questions. Moi, je dirais le lien est indirect. L'impression que j'ai, et c'est même plus qu'une impression, c'est une certitude, c'est que le célibat crée quand même une frustration extraordinaire. Et les jours de frustration très forte, disons, la pulsion ou le fantasme pour en sortir peut se porter sur n'importe quel objet et peut-être prioritairement pour un certain nombre sur des enfants.
Qui sont des proies faciles.
Ou qu'on peut dominer facilement, a fortiori, si on a déjà une influence dite spirituelle.
De
confiance, absolument.
Et de conscience.
Voilà. Oui. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qu'il faudrait dire, que, en tout cas, indirectement, le célibat, il faudrait le regarder de très près, quand même,
Alors, dans la question de Dominique, il y a deux aspects. Il y a le mariage des prêtres, et puis il y a aussi la présence ou pas des femmes à des postes à responsabilité. Mathilde Imberti, à Rome, le clergé est masculin, le pape François, comme tous ses prédécesseurs, est un homme. Est-ce que le pape François s'est prononcé sur la question du célibat et sur la question de la place à accorder aux femmes dans l'institution catholique au sens large?
Alors, il s'est prononcé sur la question, mais de manière non décisive, va-t-on dire, c'est-à-dire qu'il ouvre effectivement l'Église aux femmes, rappelant le rôle fondamental qu'elles ont, le bon sens, dit-il, des femmes, dont on a besoin, dont on a tous besoin. Après ça, rien de très concret sur l'ouverture de l'Église aux femmes. Non, le pape François n'a pas fait avancer d'un pouce finalement la doctrine de l'Église, rien n'a bougé de ce côté-là. Sur le célibat des prêtres, de même, en apparence, on a une sorte d'ouverture, c'est-à-dire que le pape François X n'est plus un dogme. Au-delà de ça, je peux me tromper, mais à mon sens, ce n'est pas le pape François qui reviendra sur ces éléments fondamentaux pour l'Église.
Jean-Louis Schlegel souhaite réagir et nous entendrons le père Vignon après.
Moi, je suis à peu près certain que le pape François, intérieurement, aurait des désirs de réforme beaucoup plus grands, et en particulier pour la place des femmes dans l'Église. Mais j'ai l'impression, en effet, que ça fait un peu plus de 5 ans qu'il est là, qu'il est découragé. C'est-à-dire que sur ces réformes-là, en particulier les femmes dans l'Église, mettons, on l'a vu aussi pour la famille, des trucs des choses aussi peu essentielles que le fait que des divorcés remariés puissent aller communier. Alors, j'ai souvent dit, c'est quand même les meilleurs des divorcés qui auraient une envie de ce genre-là, parce que la plupart des divorcés s'en fichent royalement. Mais même là, il y a eu une opposition absolument invraisemblable, et donc j'ai un peu l'impression, effectivement, qu'aujourd'hui il est découragé. Il se peut aussi que malgré tout, dans sa tête, c'est un homme de 81 ans, il ait, comme on dit, une conception de la vie conjugale, du rôle des femmes, un peu classique, quoi, un peu ancien. Mais tout de même,
les femmes, c'est le bon sens. Voilà, c'est ce que nous disait Mathilde Imberti.
Comme ça, mais c'est ce qu'on entend tellement souvent dans l'Église et qu'il reprend maintenant à son tour. C'est décevant, c'est incontestable. Je ne crois pas, hélas, que la situation lui permette d'aller plus loin, parce que, déjà depuis longtemps, moi je suis sûr que une partie de la curie s'oppose, et des cardinaux s'opposent frontalement à cette volonté de réforme.
Père Vignon, est-ce que le double vœu de célibat et de chasteté, alors d'ailleurs dans l'univers catholique ça va ensemble puisque normalement on consomme le mariage et on n'a pas de rapport charnel hors mariage, donc est-ce que ce double vœu de célibat et de chasteté est devenu trop lourd à porter pour les prêtres? Est-ce qu'il peut être générateur de crimes sexuels?
C'est la question vaste ensemble. Bon, pour ma part, ce que je peux dire, c'est que effectivement demander cette perspective et à l'âge 24-25 ans quand on est ordonné diacre, et moi je l'ai fait joyeusement, mais j'étais certainement encore beaucoup trop jeune. Peut-être que maintenant il aurait peut-être fallu que je sois ordonné plus tard, mais bon, cela dit, ça s'est passé comme ça, et l'expérience de la vie m'a montré que jeune moine, une jeune religieuse, un jeune prêtre, vivant la frustration dont a parlé remarquablement Jean-Louis Schlegel, met plus de temps à retrouver son équilibre et à retomber sur ses pattes qu'un jeune couple marié ou que quelqu'un qui vit librement sa sexualité. Et donc, de ce point de vue-là, dans nos sociétés modernes hypersexualisées, je dis ça sans critique, c'est plus difficile de trouver son équilibre que nulle part ailleurs, parce ouais. qu'il y a rien qui vous protège. Autrefois, un jeune prêtre était très entouré. Il y avait une vie très fraternelle. Il n'était pas seul dans son presbytère. Aujourd'hui, un prêtre est laissé à l'abandon, même si l'évêque est très proche de ses prêtres. Si quelquefois il y a des confrères très fraternels, très gentils, on se retrouve vite très seul. Et donc, il faut trouver de nouvelles façons de pouvoir poursuivre ses objectifs dans la société telle que nous la vivons. Alors, l'ouverture aux clergés mariés, c'est-à-dire des hommes mariés prêtres, voilà. Parce que le mariage des prêtres, ça fait, j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Dominique, mais ça fait pas baguette magique. Ben allez, marions-les, comme ça il y aura pas de problème. Bon.
Il faudrait peut-être ordonner des hommes mariés, prendre le problème dans l'autre sens.
Voilà,
si je vous entends bien.
C'est comme ça que c'est dans la doctrine des églises traditionnelles, c'est-à-dire l'église orthodoxe et l'église catholique. Excusez-moi,
je vous laisse terminer. On va retourner au standard.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson.
Bonsoir Olivier, vous nous appelez de Brest et vous êtes à l'antenne.
C'est cela.
On vous écoute.
Juste pour digresser sur ce qui était dit avant, je pense pas que le mariage guérisse de la pédophilie. Hein. La plupart des pédophiles, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils atteignent leurs enfants. Bon, bref, par contre, moi, ma question, c'était pourquoi, étant donné qu'il y a eu des scandales depuis 70 ans avec les Magdalene Sisters,
en Irlande,
la même chose avec Mère Teresa en Inde, la pédophilie depuis 70 ans en France, on voit qu'il y a une culture du secret qui échappe à la justice. Pourquoi n'attaque-t-on pas l'Église, les évêchés en tant que personne morale avant de se retourner contre les personnes physiques, donc les prêtres pédophiles, parce que c'est ce qu'on fait avec les entreprises comme nous en Bretagne, vous savez, avec les pétroliers qui déversent leur mammouth, leur ouais. mazout. Donc je pense que je comprends pas pourquoi c'est pas fait.
D'accord, mais merci pour votre question, Olivier. Isabelle de Gaumin, rédactrice en chef à La Croix. C'est vrai que ça fait une vingtaine d'années en gros qu'en France il y a des actions. Les victimes ne savent pas forcément bien s'y prendre parce que elles sont gênées, parce que c'est nouveau, parce qu'on a peur de s'attaquer soit à un homme considérable, soit à une institution. Alors, est-ce que vous voyez, est-ce que vous entrevoyez ce qui pourrait être fait pour qu'il y ait des actions en justice efficaces ?
Alors, je crois quand même que depuis l'affaire Barbara, il y a pas mal de choses qui ont changé, en tout cas en France. Hein. C'est-à-dire que maintenant, normalement, tous les diocèses ont un numéro vert, on peut appeler. Il y a des gens qui sont là pour répondre à toutes les demandes concernant ce genre de problème, pour orienter. Et normalement, en France en tout cas, dès qu'un évêque a vent de quelque chose, il doit saisir la justice. Hein. C'est quand même le cas normal. Alors, il y a peut-être des évêques qui le font pas. Le problème, c'est dont il faudrait parler aussi, c'est le pouvoir des évêques. C'est-à-dire que en fait, un évêque est un peu roi dans son royaume. Et finalement, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de lui ? Il n'y a que le pape et encore. Donc, c'est vrai que le problème, c'est que tous les évêques ne font pas cette politique.
Il est roi, il n'est pas des RH. Il n'est pas des RH, quoi. Il est plus que ça.
Il n'est pas des RH. En fait, c'est vrai qu'il a beaucoup de pouvoir. Et c'est un des gros problèmes, on va dire, un des trous dans la raquette actuelle. C'est-à-dire que ce qu'on a bien vu avec le Chili, ce qu'on a bien vu avec les États-Unis, c'est que le pape, aujourd'hui, n'a pas les moyens
de juger les évêques, en fait. C'est ça le problème. C'est-à-dire que, alors, il a normalement fait un motu proprio en 2016, donc il y a 2 ans. Un motu proprio, c'est un décret qui doit permettre ça. Mais en tout cas, les procédures en vigueur n'existent toujours pas. Donc, il n'y a pas encore de moyen pour l'Église catholique, pour Rome, de convoquer un évêque pour mauvaise gestion d'affaires de pédophilie. Et ça, normalement, ça devrait venir. C'est-à-dire que c'est quand même un des gros manques aujourd'hui. Mais il me semble quand même que sur la justice française, il y a des choses qui sont faites. Hein. Le Monseigneur Piquant, donc ça c'était en 2000, qui a été condamné
dans,
par
dans
la
le Calvados.
Justice française,
hein. Voilà. Il a été premier évêque condamné depuis la loi de 1905.
Voilà. Et puis l'affaire Barbarin, on va voir sur quoi ça aboutit.
On va voir ce que ça donne.
Il y a une procédure judiciaire en cours. Donc on peut pas dire que la justice s'en désintéresse complètement. Ce qui est sûr, c'est que pendant très longtemps, les victimes étaient un peu laissées à l'abandon. Et finalement, enfin moi j'ai vraiment vu ça pour l'Église jusqu'à à peu près il y a 5 ans. Ce qui était le plus important, c'était 1, pas de scandale. 2, qu'est-ce qu'on fait de nos prêtres? Parce que c'est un vrai problème quand vous avez un prêtre qui fait des actes pédophiles. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que on le met dans un couvent, dans un monastère, dans une bibliothèque. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc le gros problème des évêques, c'était d'abord les prêtres et c'était pas du tout les victimes.
C'était pas du tout les victimes.
Là, je trouve que ça a quand même changé.
Mathilde Imberti en direct de Rome. Alors, on entendait Jean-Louis Schlegel qui nous disait que le pape est effréné à Rome par sa curie. Isabelle de Gaumain nous explique que le pape, il a beaucoup de mal à avoir la main finalement sur ses évêques. Vous le sentez seul? Je ne sais plus quel interlocuteur nous disait, le pape, il a l'air un peu découragé. Vous sentez que ce pape, c'est, sans mauvais jeu de mots, un chemin de croix, la gestion de ces dossiers pédophiles?
Bah, c'est ce qu'on dit sur l'ensemble des dossiers en réalité gérés par le pape François, c'est-à-dire qu'un grand vaticaniste qui est Marco Politi estime, qu'on entend souvent sur France Inter, hein, estime que le pape, absolument, si vous voulez, est soutenu par à peu près 10-20% de la curie à Rome, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, et ça sur tous les dossiers. Ensuite, sur la pédophilie, il est vrai que le pape pourrait intervenir et jouer ce rôle de législateur suprême. Il y a quand même des instruments qui devraient, disent les victimes, être mises en place. Alors, Isabelle parlait effectivement de ce motu proprio pour juger les évêques dits négligents. Donc, on n'a pas les procédures. Le pape serait en train de préparer un texte précisant ces procédures pour que ce soit un petit peu concret, puisque jusque-là, ce texte de 2016 n'a abouti finalement à aucun jugement, si vous voulez. Ensuite, il pourrait aussi obliger les conférences épiscopales à envoyer les signalements d'abus aux autorités judiciaires. Ça, c'est quelque
civil.
Chose qui n'a pas été fait.
Aux autorités
effectivement civiles de l'État, si vous voulez. Donc ça se fait en France, ça ne se fait pas en Italie. J'étais au téléphone il y a quelques minutes avec une victime italienne,
oui,
qui me racontait qu'effectivement la conférence épiscopale italienne ne transmet pas les signalements. En tout cas, jusqu'à très récemment, c'est en train de changer en Italie, mais c'est très lent. Il y a la prescription aussi en Italie. Les faits sont prescrits au bout de 10 ans. Donc 10 ans, imaginez, c'est quand même très court,
c'est
le temps
rapide.
Qu'une victime, veuille bien parler, etc. Donc il y a une série tout de même de mesures qui pourraient être mises en place. En tout cas, elles sont demandées par les victimes, qui demandent maintenant vraiment des actes concrets. Le pape y rencontre les victimes. Le pape exprime sa honte. Il a écrit cette lettre qui est effectivement très forte aux baptisés. Maintenant, tout le monde attend des actes concrets de ce pape. Et c'est aussi là-dessus que se jouera la crédibilité de son pontificat malgré tout.
Et ça va se jouer très vite puisqu'il se rend dans un pays éminemment catholique dans quelques jours, dans quelques heures, Mathilde. Le pape se rend en Irlande. Il a prévu, je crois, de voir des victimes.
Oui, il a prévu de voir des victimes. C'est une rencontre qui se fera de manière confidentielle. On aura le contenu de cette rencontre après coup. Et l'Irlande, c'est un pays là aussi symbolique, hein, après le Chili, puisque de nombreux scandales ont éclaté. Ouais. Et l'Église irlandaise a perdu un nombre considérable de fidèles. Avec le numéro 2 du Vatican lui-même hier, le cardinal Parolin admettait que ces affaires ont un effet dévastateur sur l'Église. L'Église perd des fidèles. Et quand vous allez aux messes au Chili notamment, c'est la première chose dont vous parlez les fidèles. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on fait par rapport aux abus sexuels? Et voilà, ça c'est vrai que ça, le voyage en Irlande à ce titre-là est un test, va être important pour le pape François.
Jean-Louis Schlegel, puis on retourne au standard.
Oui, je voulais juste dire que si l'Église joue le jeu de la justice civile, comme c'est le cas en France, hein, un évêque, quand il a quand on lui signale un cas, il doit dire au prêtre de se présenter lui-même, sinon l'évêque l'emmènera chez le procureur. Hein, c'est à peu près, mettons, le système. Mais il faut se méfier quand même. Hein, si on joue le jeu de la justice civile, il faut aller jusqu'au bout des règles de la justice civile. Moi, je connais un cas, je le raconte rapidement. Si vous voulez, un prêtre est dénoncé auprès de l'évêque par des parents dont la fille leur dit que ce prêtre lui a fait des attouchements. L'évêque aussitôt convoque ce prêtre, le démissionne de sa paroisse et lui demande d'aller se dénoncer au procureur. Bon, très bien, le prêtre a fait ça, il a été envoyé je ne sais où. Mais quelques mois après, on a appris qu'il y avait un non-lieu. Or, ce prêtre, si vous voulez, le système est ainsi fait maintenant que c'est quand même terrible. Il ne peut plus se présenter pratiquement dans aucun diocèse français parce que son nom a été révélé dans la presse. Et quand un prêtre arrive, vous savez, ça se passe de façon très simple. Un prêtre est nommé comme ça, inopinément, il vient de Lille, et puis on le nomme amende, mettons.
On met de la distance.
Oui, mais le premier réflexe, je dirais, des gens curieux, c'est d'aller voir sur Internet ce qu'a fait ce prêtre avant. Et on peut trouver facilement donc qu'il a été mêlé à une affaire de pédophilie. Mmh. Et c'est une profonde injustice quand même. Voilà.
19h54, bonsoir Jean-Pierre.
Ah, bonsoir.
On vous écoute, vous êtes à l'antenne de France Inter.
Oui, bon, je pourrais témoigner parce que moi aussi, je suis né en 1955, j'ai 63 ans. L'abbé qui s'occupait du cathé en profitait bien. Et j'ai discuté récemment avec ma sœur qui a 2 ans de plus que moi. Il n'y avait pas de distinction entre les garçons et les filles.
Bon.
Donc je pense des témoignages comme ça, il doit y avoir des milliers. Mais c'est pas le plus intéressant. Non, le plus intéressant, moi, ce qui m'intéresse, ça serait de savoir à partir de quelle date l'Église catholique, quel est le pape qui a décidé que de l'abstinence des prêtres et donc du célibat, quoi. Parce que je pense que ça n'a pas été tout le temps le cas.
On va poser la question.
Et pour quelle raison? Et pour quelle raison? Alors, peut-être une histoire, j'imagine, enfin dans ma tête, j'imagine bien que on était dans une société agricole et qu'il fallait pas diviser les terrains et que.
Alors on va faire vite, parce qu'il nous reste moins de 5 minutes. Jean-Louis Schlegel.
Oui, il y a probablement des raisons sociales, hein, du genre de celles que vous dites, les terres à ne pas partager, etc., dans l'héritage. Mais donc ça a été décidé, je crois, fixé plutôt, définitivement au XIe siècle, au Xe, XIe siècle, et peut-être même que le pape Grégoire VII, célèbre réformateur, a joué un rôle décisif dans cette grande division entre clercs et laïcs, prêtres et laïcs. Mais disons, une des raisons qu'on a souvent données, c'est que c'était pour l'apostolat. En quelque sorte, un célibataire qui n'aurait pas de famille derrière lui serait plus disponible, mettons, pour tout simplement s'occuper de sa paroisse. Et a fortiori, si le célibataire en question, on l'envoie en mission, comme c'était le cas à partir du Moyen-Âge, au XIIe siècle surtout, évidemment, c'est beaucoup mieux s'il est célibataire, hein, puisqu'il est théoriquement libre. Alors ensuite, je pense quand même qu'il y a eu des siècles où l'Église, curieusement, a été plus, je sais pas comment dire, plus laxiste,
plus libérale
finalement, a peut-être fermé les yeux. C'est-à-dire une des raisons de la réforme, c'était ça, un clergé totalement corrompu, un nombre invraisemblable de prêtres qui vivaient avec des épouses ou des
certains papes même.
Voilà,
chez les Borgia, la chasteté n'était pas
absolument
n'était pas la règle.
Des papes, des cardinaux. N'était pas chaste du tout, quoi. Voilà.
Je voudrais terminer avec cet email qui nous est arrivé sur franceinter.fr. On pourra pas prendre tous les appels au standard, mais ce mail, Héloïse, qui se présente comme catholique, nous dit « J'aimerais comprendre pourquoi les croyants ne s'unissent pas dans une grande manifestation contre ces actes. Je ne comprends pas ce silence. Que pouvons-nous faire ?» Question qu'on transmet au Père Vignon. Qu'en pensez-vous?
Ah oui, de toute façon, plus on s'unira, mieux ça vaudra. Je voudrais revenir sur la question du célibat, et puis tout en respectant ce qu'a dit Jean-Louis Schlegel, qui est très important. Il y a quand même l'exemple du Christ qui a vécu célibataire, donné les apôtres qui ont laissé leurs femmes pour le suivre. Et donc, tant dans la tradition orientale et orthodoxe et la tradition catholique latine, ceux qui ont été successeurs des apôtres ont toujours été célibataires. Et c'est dans l'Église latine la spécificité. Ça a été demandé assez rapidement au début, déjà en tout cas au moins on a des traces au IIIe siècle, et que le clergé, le presbytéral, vivent ce que vivaient les évêques. Et c'est là-dessus qu'on pourrait tout à fait moduler
c'est
les choses.
Ouais, oui, c'est une tradition plus qu'un dogme. Isabelle de Gomain, rédactrice en chef à La Croix, auteure d'Histoire d'un silence. Cette question d'Héloïse, pourquoi les croyants ne s'unissent pas dans une grande manifestation contre ces actes, c'est le sentiment qu'on a en lisant votre livre.
Oui, moi je pense qu'il faut que c'est d'ailleurs exactement ce que dit le pape. Il faut que changer cette culture dans l'Église catholique qui est très forte, cette espèce de culture de l'obéissance au prêtre, mais une obéissance sans raison, une obéissance sans réfléchir. Et il me semble que les catholiques sont adultes, qui doivent donc eux-mêmes avoir du jugement, pouvoir dire à un prêtre, là, ce qu'on fait, c'est n'importe quoi, pouvoir aller voir l'évêque. Et c'est vrai que dans l'Église catholique, et d'ailleurs notamment en France, c'est moins vrai par exemple en Allemagne, où le pouvoir des laïcs est beaucoup plus important. Mmh. Mais en France, en tout cas, les laïcs ont beaucoup de mal à remettre en question ce pouvoir du prêtre, à discuter avec eux d'égal à égal, à participer aux choses. Et finalement, on considère, bon, ben voilà, la paroisse, le culte, c'est l'affaire du prêtre. Et c'est pas notre affaire. Et nous, on est là de manière passive et on obéit. Mais je crois qu'un catholique n'est pas un mouton. C'est quelqu'un qui a un jugement et qui donc peut faire des choses. Donc je pense qu'effectivement, c'est ça qu'il faut changer. Et en plus, le pape nous y encourage. Donc,
ça peut être une brebis égarée, mais pas un mouton. Merci Isabelle de Gomain, rédactrice en chef à La Croix. Merci à Mathilde Imberti, correspondante de France Inter en Italie et au Vatican, qui sera dans l'avion papal samedi matin pour suivre ce voyage en Irlande. Merci au père Pierre Vignon, prêtre dans la Drôme, en direct de France Bleu Drôme Ardèche à Valence. Merci à vous, Jean-Louis Schlegel, sociologue des religions, directeur de la revue Esprit. Merci à toute l'équipe du Téléphone Sonne, Pierre de Certaines, Caroline Baudry et Justine Bilray. Merci à Caroline Hilla à la réalisation. Henri Bérec et Rémi Sistiaga étaient à la console.